Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Propulsé par mademoiselle.com.
Bonjour, bonjour, bonsoir les popcorners, bienvenue dans Sors le popcorn, votre émission ciné-série préférée finalement. Et ce soir, écoutez, je suis ravie, moi, Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle, d'accueillir avec moi Philippine.
Salut Philippine. Je suis ravie d'être là. Je suis trop contente d'être là.
Alors Philippine, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour
Bien sûr. Alors je m'appelle Philippine ou Philou parce que du coup c'est le nom avec lequel je signe sur Mademoiselle. Et je suis rédactrice ciné-série depuis très peu de temps. J'ai rejoint le pôle de la grande Kalindi. et voilà, je suis en stage chez Mademoiselle.com. Et trop je suis trop contente de faire mon premier podcast avec toi.
Ouais, bah moi aussi je suis grave contente qu'on le fasse ensemble parce que... Bah parce que c'est très cool, écoutez, vous pouvez aller lire tous les articles de Philippine sur mademoiselle.com, elle en a écrit déjà pas mal, elle est efficace, elle est douée,
toujours,
enfin voilà.
Toujours très professionnelle.
Et donc, bah pour petit rappel, ça fait longtemps qu'on s'est pas entendu, hein, les popcornos.
Ça fait un moment.
Ça fait un moment, donc...
Moi qui faisait partie de l'Audima avant.
Eh bah oui, et en fait, depuis tout janvier, là, il n'y a pas eu de Sort le popcorn, mais je vous expliquerai ça un petit peu plus en longueur, on va changer quelques trucs, mais pour rappel, Sort le popcorn, c'est le podcast ciné-série de Mademoiselle qui sort un mercredi sur deux pour parler d'un film plus en profondeur, et le dernier vendredi de chaque mois pour parler d'une série qu'on a kiffé. Voilà, alors la première partie est sans spoiler, comme ça vous pouvez écouter, vous dire putain ça a l'air génial ce film, ça a l'air génial cette série.
Elles sont géniales ces meufs,
j'ai envie de continuer à les écouter mais j'ai pas encore vu le film ou la série. Hop, vous arrêtez, vous allez voir votre truc, vous revenez et la deuxième partie est avec spoiler.
Incroyable, voilà. Ingénieux.
C'est ça, ce concept est dingue.
Ce concept est incroyable, vraiment.
C'est pour ça qu'on a engagé Philippine, hein. C'est parce que voilà, elle est complètement lèche-cul. Non, je rigole, c'est parce qu'elle est talentueuse. Bon, écoutez, je propose qu'on commence par nos petites recos habituelles. Est-ce que tu as un film ou une série à recommander ce mois-ci, Philippine?
Alors, complètement, parce que depuis mon arrivée chez Mademoiselle, j'ai pu voir de nombreux films, donc je suis ravie. Et notamment un film que j'ai vu avec toi, il y a 2 semaines à peu près, qui s'appelle Les Traducteurs, qui est un film de Régis Roinsart.
Exactement.
Qui sort fin janvier, le 29 janvier. Et c'est un film que j'ai vraiment... que j'ai vraiment trop kiffé. Le casting est dingue. Donc c'est un film, pour la faire courte, qui parle d'un livre, d'un roman dont 2 tomes sont sortis, qui a fait fureur partout dans le monde. Le 3e tome va sortir et en fait le mec qui se charge de la sortie de ce livre,
l'éditeur finalement,
l'éditeur complètement, engage 9 traducteurs qui va enfermer dans un bunker pour que ces traducteurs traduisent en même temps le bouquin, pour que la sortie soit faite instantanément, enfin toutes les langues en même temps. Et il leur donne que 10 pages par 10 pages pour que ça reste mystérieux. Sauf que, alors que les 9 traducteurs sont dans le bunker, des pages commencent à fuiter sur Internet. Mais on ne sait pas d'où vient la fuite. Donc voilà, c'est vraiment top. J'ai pu retrouver mon bien-aimé Alex Lawther dans ce film, que vous avez pu découvrir dans The End of the Fucking World.
Oui.
Voilà, et qu'on a pu rencontrer parce qu'une interview va sortir sur mademoiselle.com.
Exactement.
Donc voilà, on est ravis. Puis il y a aussi un super casting avec Lambert Wilson, avec Olga Kurylenko, avec Sarah Giraudot, avec Frédéric Shaw. Enfin voilà, c'est vraiment top. Je recommande.
Ouais, c'est vrai. En plus, c'est rare comme ça les... En fait, je trouve que ça combine plusieurs choses. Déjà, c'est un thriller. En plus, c'est un huis clos. Et en plus, c'est un casting international. Et ils parlent tous français. Et c'est assez rare, je trouve. Et franchement, moi aussi, j'étais bien emmenée par le film. Alors, une première partie où tu te dis, ouais, non, mais j'ai compris, c'est machin. Enfin, tu vois, tu as l'impression que tu as trouvé. Et en fait, t'as une deuxième partie qui te remet dans le rythme et qui te relance. Et franchement, ouais, moi aussi, j'ai bien kiffé, en tout cas.
C'est ce système de plusieurs chutes avant de comprendre vraiment le dénouement final. Mm-hmm. J'ai vraiment trouvé ça à la fois hyper intelligent et hyper, hyper accrocheur pour le spectateur, quoi.
Ouais, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai pas mal kiffé. Et ben, écoutez, n'hésitez pas à aller le voir. Ça sort le 29 janvier au cinéma. Donc voilà.
Donc voilà.
C'est super.
Comme on a toujours des super avis chez mademoiselle.com. Voilà.
Et moi, du coup, je vais vous recommander un film aussi, également, vous voyez, que j'ai vu avec Philippine.
Nous avons aussi vu ensemble. Incroyable.
On l'a vu ce week-end avec Philippine et Kalindi. Et écoutez, moi, j'ai été complètement subjuguée par 1917 de Sam Mendes. Et c'était, en fait, un film que je me suis dit... je savais qu'il fallait que j'aille le voir parce que c'est un film qui va avoir, je pense, beaucoup d'Oscars et qui est important pour les cinéphiles, je pense. Mais sauf que je me suis dit, waouh, un plan séquence de 2 heures sur la Première Guerre mondiale. J'ai déjà vu 25 films sur la Première Guerre mondiale. J'en ai un peu soupé, j'en ai un petit peu marre. Donc, j'étais pas chaud. Heureusement, on s'est motivé à trois pour y aller parce que vraiment toute seule, je pense que j'y serais pas allée. Et puis finalement... En fait, j'ai découvert vraiment c'était un vrai chef-d'œuvre. Enfin,
un vrai chef-d'œuvre. Ouais,
pour moi, c'était
toi.
Donc c'est l'histoire de deux soldats en fait qui sont envoyés au-delà du front pour aller délivrer un message à une autre division anglaise. Donc c'est des soldats british pendant la Première Guerre mondiale en 1917. Et donc voilà, c'est l'histoire de leur aventure qui dure en fait que quelques heures puisque le film est en plan séquence, donc il est voulu en temps réel, même s'il y a quand même des coupes et c'est des faux plans séquences, mais c'est
quand même relativement bluffant.
C'est techniquement à la limite du parfait en fait. Ce film est juste dingue et même les plans, c'est très beau, et les acteurs sont incroyables.
Est incroyable.
Ouais, c'est ça. Alors le casting est incroyable, mais pas au sens où on l'entend, puisque tous les seconds rôles sont assumés par des acteurs comme Colin Firth ou Benedict Cumberbatch ou encore Richard Madden. Et puis finalement, ils ont deux phrases, donc c'est très bizarre de les voir là, d'être complètement éclipsés par ce premier rôle qui est un jeune soldat joué par George MacKay, qui est juste, incroyable quoi. C'est un jeu d'acteur extrêmement minimaliste mais hyper efficace et qui transmet énormément d'émotions. Et il y a aussi le jeune acteur qui joue
Tommen Baratheon dans Game of Thrones, et qu'on avait déjà retrouvé dans The King, qui est sorti sur Netflix, dont vous avez parlé d'ailleurs dans Sort le Popcorn.
Ouais, exactement.
Voilà. Donc
quelle belle auditrice fidèle
toujours professionnelle, je l'ai dit au début, voilà. Et oui, qui lui aussi livre une belle perf. Moi, j'ai surtout été assez éblouie par la qualité des visuels de ce film parce qu'on passe d'une couleur à une autre, les univers sont hyper travaillés, les décors sont incroyables.
Ouais.
Donc on peut passer d'une ambiance hyper rouge avec des flammes à blanche avec de la fumée à verte parce qu'on est dans la forêt. Enfin, c'est assez incroyable esthétiquement parlant.
Ouais, franchement, un très 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 beau film et en plus une histoire vraiment hyper palpitante. Et moi j'avais vraiment peur de me faire suer. Et en fait, c'est ce que mes potes, parce que moi j'en ai fait une petite story sur Instagram. Alors du coup, mes amis m'ont dit, mais Alix, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et j'ai dit, en fait, c'est rare les films de guerre comme ça où t'es pris dans l'action de bout en bout, quoi. Moi, j'étais en sursaut sur sursaut. C'était vraiment incroyable. Donc vraiment, je vous le conseille à 200%. Voilà, vous ne serez pas déçus, je peux le parier. Sinon, je vous rembourse le billet. voilà, non, c'est une blague, bien sûr. Je n'ai pas d'argent. Eh bien, écoute, je propose qu'on passe à la série du mois.
Mais tout à fait.
Mais on n'a même pas dit ce que c'était.
Non, on n'a pas annoncé.
Mais pourtant, ça me paraît évident parce que ce mois-ci est sorti, donc c'était le 17 janvier, est sorti la saison 2 de Sex Education.
Sex Education.
Voilà, exactement. Et donc, c'est une série, que personnellement, j'attendais beaucoup. Toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Je pense qu'on était nombreux à l'attendre. Moi aussi, je l'attendais beaucoup. Et dans mon entourage aussi... On était un peu dans les starting blocks. Tout le monde avait bloqué son vendredi soir pour binger ce week-end.
Alors, pour petit rappel, du coup, Sex Education, la saison 1 est sortie en 2019. C'est une série qui a été créée par Laurie Nunn. Et donc, c'est une série britannique qui parle, en fait, d'un jeune homme qui va au lycée, comme à peu près tous les jeunes hommes et les jeunes femmes. Et sa mère est sexologue. Et donc, lui, il se trouve un talent à analyser les problèmes et à répondre aux problèmes de sexualité.
Alors même que lui n'a aucune expérience,
bien sûr,
dans la sexualité, puisque donc, c'est un jeune homme qui est vierge et qui ne connaît absolument rien.
C'est ça.
Enfin, lui n'a jamais expérimenté quoi que ce soit, quoi.
Exactement. Et du coup, il va donner des conseils sexo à ses camarades de lycée. Contre de l'argent, tout simplement, parce que bah, business is business, hein, écoutez les gars.
Exactement.
Donc c'était, en fait, je trouvais que c'était une série révolutionnaire, parce que dans le sens où, en fait, ça certes, dans les séries, de plus en plus, on parle de plus en plus ouvertement de la sexualité, des différences de sexualité. Il y a des personnages qui ont des sexualités différentes, mais il n'y en avait pas une qui faisait de l'éducation sexuelle, en fait. Ouais. Et en ça, et c'est quand même ludique parce que ça reste une série, mais je me dis, mais moi, bordel, le jour où j'ai eu sur mon agenda, en quatrième, je me souviens, éducation sexuelle, déjà j'ai pouffé trois fois, et on m'a appris à mettre un préservatif sur une banane. C'était à peu près tout. Voilà. Et donc de se dire qu'aujourd'hui, il y a des séries comme ça qui proposent un contenu intelligent, décomplexant et super ludique sur la sexualité. Ça fait plaisir, quoi, et je me dis, mais tous les collégiens, les lycéens peuvent profiter de ça, et je trouve ça quand même ouf. Et je pense que, enfin, tout à l'heure, j'en parlais avec des amis qui me disaient, oui, Sex Education, ouais, j'aime bien, c'est gentil comme série. Non, pour moi, c'est pas gentil. C'est vraiment révolutionnaire, enfin, vraiment. Je sais pas comment tu l'as senti,
toi, la saison. Je suis d'accord avec toi. Déjà, plus que les collégiens et lycéens, je pense que ça éduque beaucoup de gens.
Ouais.
Parce que, comme tu l'as dit, en fait, nous, Français, on a quand même eu une éducation sexuelle qui n'a pas volé très haut. Moi, personnellement, j'ai commencé à m'éduquer sexuellement avec le guide du zizi sexuel de Titeuf.
Ah!
Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'à l'école, j'avais rien appris. Et pourtant, tu vois, quand j'ai vu passer les bandes annonces de la saison 1, que j'ai vu que Netflix en parle, etc., je me suis dit, c'est encore une teen série, un teen show. J'ai eu mes teen shows quand j'avais 15-16 ans qui me parlaient de sexualité. Je pense à Skins, par exemple, ou même à Glee, tu vois, qui parlait un peu du quotidien d'un lycée et qui abordait les thèmes de la sexualité. Donc je me suis dit, flemme d'en regarder une pour que ça parle encore et toujours des mêmes choses. Enfin, je les ai eues, ces séries-là, j'ai pas besoin d'une nouvelle. Et en fait, j'ai commencé quand même par curiosité, aussi par addiction complète pour les séries. Et j'ai été, mais à la fois superbement surprise, et dans le bon sens du terme, et aussi, mais j'ai trouvé ça révolutionnaire. C'est une série pour moi qui est vraiment d'utilité publique, en fait.
Ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'aimerais bien que tout le monde la regarde, parce que, en fait, même mes parents, je me souviens qu'ils avaient commencé à regarder, puis je leur avais dit, vous regardez Sex Education, mais vous savez, c'est pour les ados. Et en fait, je me suis reprise, et je dis, mais non, en fait, je suis sûre que tout le monde pourrait regarder et apprendre des trucs, parce qu'en fait, il y a aussi les personnages des parents qui sont ultra intéressants, parce qu'ils gèrent...
Et la relation parent-enfant.
Ouais, la relation parent-enfant. Voilà, c'est vraiment une série, je pense qu'il peut parler à tout le monde. En plus, c'est humour très british. Moi, je trouve ça toujours très, très drôle.
Avec les accents, j'adore.
Voilà. Et donc, voilà, moi, j'avais adoré la saison 1 et c'est pour ça que j'attendais autant la saison 2. Est-ce qu'on pourrait donner notre avis, sans spoiler, bien sûr, sur la saison 2 ? Vas-y, Philippine.
Alors, moi, déjà, j'avais pas spécialement d'attente par rapport au sujet traité dans la saison 2. Je voulais qu'il continue sur cette lancée d'aborder une liste de thèmes de sexualité, mais aussi de vie plus généralement, comme il l'avait fait dans la saison 1. Parce qu'ils avaient quand même abordé une quantité de thèmes assez impressionnante, de sujets importants, mais aussi de sujets graves. Je peux spoiler la saison 1, là ?
Oui, oh bah oui, on va dire que, bon, à partir de maintenant, si vous n'avez pas regardé la saison 1, bah, soit courez-y, soit continuez d'écouter, vous serez spoilé. Voilà.
Notamment, je pense à la storyline de Eric dans la saison 1, où il se fait tabasser pour son orientation sexuelle. On parle aussi de coming out un peu forcé. Enfin, c'est des sujets qui sont... C'est pas que des sujets gentils, en fait, comme on disait tout à l'heure. Et du coup, j'espérais que cette saison 2 continue sur cette lancée. Il n'y avait pas vraiment de cliffhanger à la fin de la saison 1.
Non, ouais.
À part l'histoire d'amour potentiel entre Maeve et Otis. Du coup, en termes d'attente, ça allait. Mais écoute, j'ai été une nouvelle fois superbement surprise et j'ai vraiment kiffé cette saison 2. Parce que voilà, ça a gardé la même rythmique.
Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça reste des personnages réels, en fait.
Ouais, complètement.
Et moi, j'avais peur, en fait, en voyant donc la saison 1, que ce soit des personnages comme on voit d'habitude, donc, c'est-à-dire clichés, etc. Et en fait, il n'y a aucun personnage qui tombe dans un cliché. Tu vois, Maeve, qui aurait pu être catégorisée comme
la badass
un peu dans son coin et tout. Et en fait, elle sort avec Jackson dans la saison 1, le plus populaire du lycée. Et même, en fait, je trouve que tout est nuancé. Mmh. Et du coup, ça rend la chose très réelle. Les personnages sont très bien écrits. Et c'est assez rare, effectivement, pour une teen série. Et pour le coup, j'ai trouvé que la saison 2 continuait d'approfondir.
Ouais, et davantage que dans la saison 1, d'ailleurs. Je trouve que les personnages sont encore plus travaillés.
Oui, d'ailleurs, tu en as écrit un article sur mademoiselle.com.
J'en ai écrit un article complètement. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil.
Je mettrai les liens dans les notes de ce podcast.
Et je parle notamment de... Enfin, tu dis que les personnages sont bien écrits. Ce que j'ai apprécié dans cette saison 2, c'est que j'ai l'impression qu'on suivait plus leur storyline à eux. Dans la saison 1, on avait plutôt tendance à suivre les problèmes de personnages très secondaires qui, en fait, étaient résolus en l'espace d'un épisode.
Oui, c'est ça. En fait, c'était les clients d'Otis.
C'était les clients d'Otis dans ce cabinet clandestin. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que les personnages sont confrontés eux-mêmes avec certaines problématiques liées au sexe ou non. Et du coup, ça implique vachement plus le spectateur émotionnellement parlant, je pense.
Mm-hmm. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis finalement, donc il y a moins ce côté client, relation client.
Qui d'ailleurs avait été assez reproché à la saison 1, que les problèmes n'étaient... C'était un peu superflu, dans le sens où c'était que des personnages... Qui restait très peu à l'écran, en fait.
Ouais, c'est ça. Donc, mais c'est vrai, t'as complètement raison. Et du coup, je trouve que ça continue d'approfondir ces chemins qui avaient été pré-tracés. Mmh. Et franchement, moi, j'ai trop kiffé la saison 2. Et vraiment, je l'ai bingé en un week-end.
Pareil.
Donc, donc voilà, bah, écoutez, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller la voir. Parce que franchement...
On peut aussi faire un big up au casting de cette saison 2, qui a quand même été assez incroyable. On avait déjà eu droit à un super casting dans la saison 1. Mais là, qui est rejoint par des figures assez connues.
Ouais.
Dont notamment, je vais essayer de dire les noms sans me tromper, Sami Bali, qui joue Raïm, le nouvel étudiant.
Le nouveau beau gosse, comme on dit.
Exactement,
le nouveau beau gosse. Qui fait tourner les têtes.
Qu'on avait pu voir notamment récemment dans Mortel, parce qu'il jouait le grand frère de Sofiane, que vous n'aviez pas reconnu, Kalindi.
Non, on n'avait pas reconnu, parce que c'est vrai qu'il a un rôle assez secondaire dans Mortel, et là, vraiment, on le redécouvre dans cette série, et ça fait vraiment plaisir.
Ouais, on a
aussi Frenchie à l'écran.
Carrément, ça fait plaisir, ça. Mm. On a aussi Tenya Miller qui joue là la directrice adjointe, ou je sais pas trop son rôle dans la série.
Une sorte d'inspectrice.
Ouais, une inspectrice qu'on avait vue l'année dernière dans Years and Years, qui était la maman. On a aussi Anne-Marie Duff qui joue la mère de Maeve dans cette série, dans cette saison de Sex Education, que moi j'avais découvert en mère complètement à l'ouest dans Shameless.
Oui, de ouf,
carrément. Et qui a aussi joué récemment dans His Dark Materials. Mm-mm. Donc voilà, et enfin, ça j'ai gros big up à ça, on a l'acteur Lino Facioli qui joue Dex. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu cette saison, vous ne voyez absolument pas de qui je vous parle. Mais pour ceux qui l'ont vu, peut-être l'avez-vous reconnu, mais il s'agit de Robin Arryn, le fils de Lisa Arryn dans Game of Thrones. Petit enfant creepy qui tétait le sang de sa mère.
Oui, bah oui.
Donc c'était assez marrant de le retrouver en adolescent, en fait, dans un lycée complètement normal et pas dans l'univers de Game of Thrones.
Mais c'est vrai qu'il y a un nouveau casting, enfin, il y a des additions comme ça au casting qui sont vraiment très intéressantes et qui font des personnages vraiment ultra cool.
Ouais, carrément.
Et j'ai oublié ce que je voulais dire là-dessus.
Tu en oublies même leur rôle dans les autres séries parce qu'ils sont hyper crédibles, en fait, dans leur rôle, dans le rôle là, quoi.
Écoute, moi je te propose qu'on passe au spoiler là, parce que moi j'ai trop envie de dire plein de trucs là.
Grave, je fais attention à rien spoiler depuis tout à l'heure.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Si vous entendez cette alarme et que vous n'avez pas vu la saison 2 de Sex Education,
prenez vos jambes à
votre cou. éteignez tout de suite le podcast. Non, je rigole. Vous pouvez écouter, même si vous n'avez pas vu, hein, ma foi. Vous faites bien ce que vous voulez. Donc, à partir de maintenant, on va faire la deuxième partie, donc avec les spoilers. D'abord, je te propose qu'on enchaîne un petit peu sur ce nouveau casting qu'on voit. Avec les nouveaux personnages, j'avais noté donc celui de Raïm qu'on voit arriver, qui est un peu l'élément déclencheur de la saison 2, puisqu'il arrive et qui fait tourner toutes les têtes.
Ouais. Et puis qui est utile dans la storyline de Eric, notamment.
Ouais, c'est ça.
Donc oui, on peut commencer par le personnage de Raïm.
Voilà, donc c'était un jeune homme gay assumé. Enfin voilà, qui va rentrer dans la vie d'Eric et qui va lui demander voilà d'être son copain et c'est tout nouveau ça pour Eric qui est habitué à se faire harceler par Adam qui lui est aussi amoureux de Eric mais qui bah voilà cache la chose. On se souvient du bisou qu'ils avaient échangé dans la saison 1 et là c'est vrai que du coup c'est en fait j'ai beaucoup aimé ce nouveau personnage, je trouvais qu'il ramenait quelque chose de encore plus sincère et encore plus décomplexant. Tout l'épisode où il explique comment fonctionne une poire de lavement.
Une poire de lavement.
Et mais ouais, mais parce que tu vois, parfois je me dis, mais je travaille chez Mademoiselle, moi tu sais, le sexe, ça va, je connais, tu vois, genre je suis plus surprise par rien. Et puis finalement, je me dis, bah ouais, mais moi je sais pas utiliser une poire de lavement. Finalement, j'apprends quand même des trucs avec Sex Education.
Carrément.
Et c'est pour ça ce que tu disais, genre c'est vraiment d'utilité publique et voilà. Quoi.
Et tu te rends compte qu'en fait, t'as toujours des trucs à apprendre sur la sexualité, quoi.
Ouais, c'est ça.
Parce que là, tu vois, on parle de ça, mais on y reviendra plus tard. Mais il développe aussi des différents. J'ai pas le terme correct, je pense, mais les différentes sexualités qui existent, parce que on entend très souvent hétérosexualité et homosexualité, et en fait, il le développe vachement. Mmh. Et pour revenir sur ce que tu disais, ce que j'ai aimé aussi dans ce personnage de Raïm, qui d'ailleurs, on est d'accord, son accent. C'est pas du tout un accent français.
Ah, mais il a un accent impeccable. Moi, je suis très, très impressionnée. Au début, je me suis dit...
C'est impressionnant.
Ouais, il est très bon.
Et en fait, parce qu'on avait déjà un second personnage gay dans la saison 1, qui fait partie des intouchables, là, tu sais, les très populaires. Et pourtant, Raïm apporte quelque chose, une dimension que ni Eric, ni ce mec dont j'ai complètement perdu le nom, apportait dans la première saison. Et apportait, d'ailleurs, dans la deuxième saison aussi, parce que, justement, c'est ce deuxième jeune homme dont je ne me souviens toujours pas du nom, qui a besoin de conseils pour faire un lavement anal, en fait.
Mmh, c'est ça. Et enfin, vraiment, Raïm, très bon personnage. Et j'aime beaucoup la relation qu'il a avec Eric et ce côté où qui désarçonne aussi Eric d'être aussi ouvert et décomplexé.
Un peu chelou quand même au début. Hein.
Ouais, il est super chelou.
Drague, elles sont un peu
très français, hein. Finalement.
Ouais, fidèle à nous-mêmes.
Non, mais ouais, il est très chelou. Mais en même temps, ouais, je trouve qu'il amène Eric quelque part. C'est très très bien. Et du coup, il y a aussi, moi je voulais parler de Viv, qui est un nouveau personnage donc, qui se lie d'amitié avec Jackson, qui, blessé à la main, ne peut plus faire de piscine, faire de natation. La meuf qui réduit la natation en haute compétition à faire de la
On
piscine.
On vous embrasse, les nageurs.
Donc il peut plus faire de la compétition de natation, donc il décide de se mettre au théâtre et de se concentrer davantage sur ses cours au cas où sa main ne guérisse pas et il puisse pas entrer dans des bonnes universités grâce à son sport. Donc il a une tutrice qui s'appelle Viv et donc qui elle est complètement à l'opposé de Jackson dans le sens où elle est dans l'équipe des Quiz Heads, donc qui
je sais pas intelligente.
C'est quoi, c'est culture générale, quoi.
Ouais, culture G.
Voilà, et hyper intelligente qui a décidé de pas se faire d'amis avant l'université parce que pour elle ça sert à rien. Enfin voilà, c'est deux personnages très différents et pareil, elle apporte quelque chose avec Jackson de très très fort. Et en fait j'en parlais tout à l'heure avec Lucie, donc la rédac beauté de Mademoiselle, et on se disait c'est fou, dans Sex Education tu vois tous les physiques sans que ce soit le sujet principal en fait de leur storyline, tu vois. On va pas, à part un moment où elle dit les garçons comme toi ne regardent pas les filles comme moi.
Je trouve que parler du physique via le personnage de Viv, qui elle en a rien à foutre de son physique.
Ouais, c'est ça, elle en a rien
en fait,
à foutre.
Mais elle rappelle que souvent, les garçons comme toi ne regardent pas les filles comme moi. Ça veut dire que au lycée, on porte beaucoup d'importance à l'apparence. Et pourtant, via la relation qu'ils vont finir par nouer, on se rend compte qu'on s'en fout. Et notamment
en termes d'amitié, on s'en fout à quoi ouais, ressemblent tes ça. Amis. Oui, peut-être qu'on est plus attiré pour former un couple avec une personne qui nous plaît physiquement, mais là, elle lui rappelle aussi via ce moment que voilà quoi.
Non mais ouais je vois complètement ce que tu veux dire et je trouve t'as raison et franchement elle est ultra touchante aussi comme meuf en plus c'est une meuf déter elle est ouais je sais pas je l'aime trop quoi elle est
et pourtant elle a ses faiblesses et c'est ça qui la rend aussi attachante
et aussi j'ai été contente parce que un moment quand ils sont à la soirée chez Otis qui sont tous les deux dans la chambre et tout je me suis dit ou quand ils partent de la soirée enfin je sais plus trop à quel moment c'est je me suis dit oh putain ils vont nous les foutre ensemble les deux. Et ça, je voulais vraiment pas que ça arrive dans Pareil. Le sens où ça faisait trop romancé en fait. Mm-hmm. Et c'est pas la storyline qu'on attendait dans une série qui se veut un peu proche de la réalité. Mm-hmm. Et donc je trouvais ça bien qu'au contraire ils se font un peu une déclaration d'amour, mais d'amitié. Et c'est pas le beau gosse du lycée qui tombe amoureuse de la bolosse entre guillemets du lycée. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Pas parce que ça ne peut pas arriver dans la vraie vie bien sûr, mais parce que là ça aurait fait vraiment
ouais parce qu'en fait c'est quoi. Ouais c'est ça c'est ça pas sa place en fait ici
ouais.
Et je trouve ça bien aussi que Sex Education se concentre aussi sur des histoires d'amitié parce qu'il y en a des très belles je trouve dans la série notamment celle d'Ola et Lily qui est une histoire d'amitié bon qui se transforme pour le coup en histoire d'amour mais c'est quand même des amis à la base
il y a Maeve et Amy aussi
Maeve et Amy qui est une superbe amitié et franchement je trouve que c'est bien représenté dans la série en règle générale voilà et donc il y a un dernier personnage dont tu voulais parler c'est ça
oui, deux derniers je vais aborder rapidement il y avait le personnage d'Isaac que je trouvais intéressant en fait je me suis renseignée et c'était pas la première fois que je voyais un personnage en fauteuil dans une teen série parce que il y a un Artie dans Glee qui est aussi un personnage en fauteuil roulant mais en fait je crois en tout cas moi c'est la première fois que je vois un personnage en fauteuil roulant joué par un acteur qui est dans la vraie vie en fauteuil roulant et j'ai trouvé ça super bien encore une fois tu l'as dit que cette série représente vraiment tous les physiques différents toutes les formes de corps toutes les couleurs de peau et voilà bon après le personnage d'Isaac au début je l'ai détesté vraiment
ouais moi aussi
je l'ai trouvé super chiant au final on se rend compte que pas tant que ça et voilà
moi après, je le trouve agaçant de bout en bout
moi aussi je l'aime pas j'avoue quand il supprime le message d'Otis je suis là putain mais merde ouais. Bon ça nous promet quand même une saison 3 mais bon
bah j'espère écoute
j'espère aussi
je voudrais pas annoncer des fake news mais bon j'imagine quand même qu'il y aura une saison 3 vu l'engouement qu'il y a eu autour de ça
le dernier nouveau personnage que je voulais aborder va être une bonne transition pour la suite puisque c'est le personnage de Florence la partenaire de théâtre de Jackson qui joue Juliette et qui va parler de sa sexualité avec d'abord Otis puis avec sa mère
oui parce qu'on l'a pas dit mais dans cette seconde saison donc l'histoire c'est que Otis se voit un peu
voler la vedette
par sa mère qui devient une conseillère sexo dans l'établissement à Mordel donc voilà c'est ça la storyline en fait et donc Otis a de moins en moins de clients parce qu'elle lui vole toutes
mais puisqu'elle fait pas payer
et que lui il reste très cher
c'est une professionnelle voilà. Et du coup ce que j'ai aimé dans ce personnage c'est que pour la première fois en tout cas je pense ou l'une des premières fois on parle d'asexualité d'asexualité et on explique en fait ce que c'est parce que moi c'est un terme que j'avais déjà entendu mais voilà de le voir d'avoir une explication et d'avoir ce personnage qui incarne ce que c'est d'être asexuel c'est bien et je pense que c'est bien d'avoir cet éventail de représentations et ce personnage qui explique de façon assez touchante je veux pas faire l'amour avec qui que ce soit mais
ça.
Je veux quand même être amoureuse et ça permet d'expliquer vraiment ce qu'est ce terme et d'expliquer que le sexe et l'amour au final
c'est deux choses différentes exactement
choses tu vois différentes.
Et c'est vrai que du coup dans cette seconde saison on continue d'aborder des thèmes ultra importants comme ça on met des mots sur les choses donc il y a le terme bisexuel qui revient dans la bouche d'Adam il y a aussi
pansexuel
pour Ola. Qui en fait donc se retrouve bien embêtée puisque elle est pas amoureuse d'Otis et quand elle se retrouve attirée par son amie Lily et en fait elle se pose des questions en fait elle se dit ouais mais est-ce que quand je suis dans la rue est-ce que je regarde les hommes ou est-ce que je regarde les femmes est-ce que je regarderais pas plutôt la personne donc c'est encore différent de bisexuel qui est attiré par les deux genres elle est attirée par une personnalité donc c'est encore autre chose et je trouve ça trop bien aussi que y a des épisodes consacrés à la pansexualité, tu vois, où il y en a un plus focus sur Ola, il y en a un focus sur Florence. Enfin, voilà, c'est...
Et ce passage où elle se pose des questions en se disant... elle doit répondre à un quiz sur son portable pour savoir sa sexualité et qu'elle sait pas, il me semble, à ce moment-là, elle sait pas sur quoi cliquer. Ouais. Ça montre aussi qu'il faut arrêter d'enfermer les gens dans des cases et que bah, y a des moments où, bah, en fait, voilà, quoi.
C'est ça. Bon, un jour,
c'était pas du tout constructif comme phrase.
Non, mais faut arrêter.
Je pense que vous avez compris mon idée, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, je trouve que Sex Education, c'est aussi, ça incarne la fluidité de cette nouvelle génération, tu vois. De, enfin, en fait, quand j'avais fait une interview de Xavier Dolan que je vous mettrai dans cette podcast, il avait parlé. Il avait parlé, en fait, donc Xavier Dolan, qui est un grand réalisateur pour moi, parce qu'il parle énormément, je trouve, à ma génération et à celle du dessus. Et en fait, il parlait de cette... Enfin, dans son dernier film, donc Mathias et Maxime, il y a un personnage qui incarne la nouvelle génération, très Instagram, très, voilà, très jeune, en fait. Et en fait, il en parle en disant « Moi, je suis un peu désarçonnée par cette fluidité que les gens... » Enfin, la facilité... avec laquelle la fluidité est représentée dans cette nouvelle génération. Mmh. Et voilà, qu'il n'y a plus de cases, en fait, et qu'un jour, bah, tu peux être asexuel, et puis dans ta vie, tu ne seras pas forcément toujours asexuel, tu vois. Et j'aime trop le ton, quoi, le ton british comme ça, très décomplexant, très...
En fait, c'est une façon d'aborder des thèmes très, très importants, et encore une fois, qui peuvent être parfois très graves, avec une certaine légèreté. Encore une fois, parfaite transition pour le prochain sujet qu'on va aborder.
Oui.
Puisque c'est, on va parler de la storyline d'Amy, et qui, pour moi, vraiment, est la storyline la plus intéressante de cette saison, voire des deux saisons, parce que déjà, ça se règle pas en un épisode, et on suit vraiment ce personnage que j'adore vraiment de tout mon cœur.
Et donc, pour rappel, Amy se fait agresser sexuellement dans un des épisodes où, en fait, elle prend le bus et un des passagers lui éjacule dessus. Donc, elle se retrouve avec une tache de sperme sur son jean préféré.
Plus que
lui éjacule
dessus, il se branle sur sa cuisse.
Il se branle sur sa cuisse.
Elle lui ordonne d'arrêter. Elle descend du bus à la hâte parce qu'en plus, personne ne réagit.
Mm-hmm.
Et elle se retrouve avec une tache de sperme sur son jean
préféré. Et en fait, c'est comme ça que ça arrive où elle se dit « Merde, mon jean préféré, quoi. » Et en fait, elle va voir Maeve et c'est son anniversaire, donc elle lui a fait un gâteau. Et elle dit « Mais ouais, oh, fait chier, mon jean préféré. »
Elle lui explique parce que Maeve lui demande pourquoi le gâteau est écrasé.
Oui.
Et sinon, on peut se demander est-ce qu'elle en aurait parlé, parce qu'au début, elle a pas trop... On a l'impression qu'elle réagit... Elle se rend pas trop compte de ce qui s'est arrivé, en fait. Elle réalise pas trop la gravité de la situation.
Exactement.
Elle trouve des excuses en disant « Mais non, c'est pas grave, il devait se sentir seul. » Et en fait, c'est le personnage de Maeve qui va lui montrer la gravité de la chose.
Et surtout, je pense, lui faire processer plus rapidement aussi un truc qu'elle aurait peut-être refoulé et qu'elle refoule même complètement au début. Et je trouve que, du coup, tout le traitement de l'agression est super dans tout cet épisode et dans tous les suivants, en fait, parce que donc Amy va être convaincue par Maeve de porter plainte, donc elle va au commissariat, et je me suis dit, putain, est-ce que ça va encore tomber dans ce truc du flic qui t'écoute pas et qui essaie de te... Et non, en fait, les flics étaient là, donc elle s'adresse d'abord à une femme, ensuite à un homme, elle fait sa déposition à un homme, et les flics sont ultra encourageants et ultra bienveillants, et j'ai trouvé ça trop bien que... En fait, cette série, elle dénonce pas les mauvais comportements, tu vois, genre, enfin, c'est pas le sujet, en fait. Mm-hmm. Le sujet, c'est comment se sent Amy et comment on traite une agression comme ça.
Ouais.
Et donc le mec, quand il commence à lui poser des questions un peu plus ardues, Maeve se braque et elle dit « Ah ouais, mais... Qu'est-ce que vous entendez par là ?» Et il fait « Bah oui, mais écoutez, en fait, si ça va jusqu'au bout, en fait, elle va avoir des questions de plus en plus difficiles. Donc, en fait, il faut qu'elle se prépare à avoir ce genre de questions. » Et j'ai trouvé ça ultra, encore une fois, bienveillant, décomplexant et trop bien, quoi. J'ai trop aimé.
Parce que ces sujets graves d'agression sexuelle, on les a déjà vus dans des séries comme 13 Reasons Why, par exemple, mais c'est abordé d'une façon beaucoup plus dark.
Oui.
Et là, j'ai trouvé que c'était abordé avec plus de légèreté. Et ce personnage qu'on a vu, qui est, elle est très naïve, Amy.
Ah, oh bah, Amy, oui, elle est plus
un peu
naïve,
elle est un peu niaise, quoi. Enfin,
carrément.
Voilà. Et du coup, que ce soit ce personnage si innocent, voilà, qui soit touché, et elle a toujours le sourire avant cet épisode. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle processe ce qui lui est arrivé, et qu'elle se rend compte que ça lui crée un blocage pour ensuite monter dans le bus, parce qu'elle se met à voir le type partout, elle supporte plus le contact physique, enfin, elle perd complètement sa joie de vivre et sa confiance en elle. Alors qu'on avait un peu l'impression que c'était un personnage qui...
Qui flottait.
Voilà,
elle me fait penser à Cassie dans Skins, tu vois, ouais. Où... Elle était vraiment un peu au-dessus de tout ça, et puis là... tout à coup, c'est elle qui devient le sujet un peu sérieux de la série. Et comme tu dis, ça se résout pas en un seul épisode. Parce que donc, il va y avoir toute cette storyline avec son copain Steve, qui comprend pas en fait ce qui lui arrive.
Mais, et pourtant, qui essaie de comprendre. Parce qu'il lui dit, oui, je sais. Mmh. Et en fait, au final, pour le point culminant de leur relation, c'est quand elle va lui dire, arrête de me toucher, je veux pas que tu me touches. Il dit, mais je suis ton copain. Et du coup, elle lui dit, mais du coup, je peux pas avoir de copain maintenant. Parce qu'on se rend compte qu'elle est vraiment traumatisée en fait par ce qui lui est arrivé.
Ouais.
Et voilà, et ça montre aussi que bah non, le harcèlement sexuel dans des espaces publics, c'est pas rien en fait. Et
c'est ça.
On en parle plus profondément dans l'épisode 7, qui moi a été mon épisode préféré.
C'est vrai.
Ah vraiment, de loin. J'ai trouvé génial, et la fin ça m'a fini les frissons.
Oui, parce que du coup dans l'épisode 7, les filles sont enfermées pour slut-shaming en col, tu vois. Enfin, elles sont collées pour slut-shaming. Par la prof.
On pense que l'une d'elles l'a fait, et voilà, du coup elle veut que celle qui l'a fait se dénonce.
Voilà, et donc elles sont enfermées en col, et puis voilà, la prof demande de trouver un point commun. C'est quoi la sororité? C'est quoi le point commun entre toutes les femmes du monde, et surtout toutes ces filles-là qui sont ultra différentes et qui ont une place hyper différente, même dans la société du lycée et tout. Et en fait, elles en arrivent à la conclusion que ce qui les rassemble, c'est quand même assez triste, c'est en fait la façon dont on les voit et traite les hommes, et les flashed penis ou un truc comme ça, les pénis non désirés, quoi.
Et d'ailleurs elle raconte individuellement les situations auxquelles elles ont été confrontées de harcèlement sexuel. Donc il y en a une qui s'est fait toucher un sein à la sortie d'un train.
Ouais, c'est ça. En fait, je trouve que cette scène là dit, c'est que donc certes ce qui s'est passé avec Amy, on le suit depuis le début, et c'est une storyline importante, mais en fait moi c'est pareil dans mon groupe de potes, j'en connais pas une qui ne s'est pas fait agresser sexuellement dans la rue. Alors c'est de plus ou moins grave, enfin même si on peut dire plus ou moins grave, j'en sais rien, tu vois, c'est plus ou moins traumatisant pour chacune, mais en fait cet épisode pour moi il traduit ça, parce que tout le monde aurait pu être là pour Amy et tout, et finalement tout le monde partage ça.
Ouais. Ce que j'ai aimé moi aussi dans cette scène, c'est que tu vois, j'ai bingé la série avec mon meilleur ami, garçon. Et en fait, cette storyline et ce qui arrive à Amy et ce passage-là sur la sororité, on l'a pas vu ensemble. Et en fait, ça, rien que ça, ça lui a fait s'interroger sur cette situation en fait que lui n'a jamais été amené à vivre directement, et il m'a dit, mais est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé une situation pareille, et est-ce que les filles de façon générale, les filles de ton entourage, ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose comme ça?
Je sors la liste, c'est un papyrus de 8 kilomètres.
C'est pour ça qu'on a pas regardé la suite ensemble, parce que j'en ai parlé pendant 3 heures. Non, c'est faux, mais oui, du coup j'ai trouvé ça bien, parce que tu vois, alors que enfin, il est très conscient de ce qui se passe dans la société. C'est un garçon très intelligent. Mais voilà, comme quoi, il y a des sujets auxquels les personnes qui ne sont pas directement confrontées n'ont pas forcément toujours conscience.
C'est ça, exactement.
Et rien que pour ça, je trouve que cette série est quand même, quand même super intelligente, et met en lumière des sujets importants d'une façon très intelligente.
Et là, et du coup, cet épisode sur la sororité, moi, je l'ai trouvé ultra bien, parce que du coup, toutes les meufs, même si la colle est terminée, continuent leur voyage ensemble pour consoler Amy en fait, et pour essayer de marcher avec elle, et donc se rejoignent pour casser les trucs dans ce parc là où Adam emmène souvent Eric, pour casser des trucs. Et j'ai trouvé cette scène marrante, mais moi, celle que j'ai préférée, c'est quand même celle où elle décide de toutes prendre le bus avec avec Amy.
Ah ouais,
et elle lui dit it's just bien. A fucking bus, it's just a stupid bus. Et ça, c'est trop bien parce que, en fait, ça, pour moi, c'est l'équivalent de la scène de This is my vagina dans la saison 1.
Ouais.
Et on s'en, enfin, voilà, on t'es pas toute seule et on sera là pour se soutenir. Et même si on est toutes différentes et si Ola et Maeve se supportent pas, n'empêche que ça, ça les rassemble. Mmh. Et ça, ça les réunit. Et j'ai trouvé, voilà, ce plan superbe de toutes les filles au fond du bus. Franchement, ça fait plaisir, tu vois. C'est le genre de truc qui est là.
C'est vraiment,
yes.
C'est vraiment cool. Mmh. C'était pour moi vraiment le meilleur épisode et ces scènes m'ont mis un peu les larmes aux yeux et tout. J'étais là, ah, c'est si chou, j'adore.
Trop bien. Mais voilà, et du coup, petite transition, est-ce que t'as. Je trouve que les personnages évoluent dans la saison 2, et comme tu disais, c'est un peu plus profond. Est-ce que t'as une évolution de personnage préféré, toi, dans la saison 2?
Ben, du coup, mon personnage préféré, c'est Amy, mais si je dois parler d'un autre. Dans la saison 1, mon personnage préféré c'était Eric, de loin.
Ouais.
Parce que je trouvais vraiment son histoire hyper intéressante, son personnage hyper intéressant. On finissait sur le fait qu'il aille au bal de promo dans la tenue qu'il voulait avec le maquillage et son père lui disait mais t'es sûr que tu vas aller comme ça, on va se moquer de toi, etc. Et il lui répondait oui mais c'est qui je suis en fait papa. Donc voilà. Donc j'avais vraiment trouvé que c'était le meilleur personnage de cette saison 1. Je l'ai toujours autant apprécié dans cette saison 2. Mais je vais parler aussi du personnage de Maeve. Parce que tu l'as évoqué un moment, elle aurait pu rester dans ce cliché de la fille badass à qui il arrive rien. Mais dans cette saison 2, on a vu en fait toutes ses fragilités et tout ce qu'il y a derrière en fait cette carapace qu'elle montre à ses camarades de fille intouchable, hyper vulgaire qui fait des doigts à tout le monde. Et là en fait, on se rend compte son background familial, d'où elle vient, sa mère qui l'a d'abord abandonnée avec son grand frère qui revient, qui est une droguée, qui revient avec une petite sœur, enfin, et tu te rends compte qu'en fait c'est hyper difficile en fait pour elle de gérer ça toute seule. Dans la série, ils ont 16 ans, enfin.
Ouais, c'est ça.
Voilà, et c'est surtout, elle dit à un moment, j'en ai marre que tout le monde me laisse tomber. C'est ce qu'elle dit à Otis. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que elle a fini par tomber amoureuse d'Otis qui s'est mis avec Ola. Quand elle fait partie du groupe des Quizheads, elle la joue hyper perso parce qu'en fait elle a jamais appris à vivre en communauté entre guillemets. Du coup il la tèche de l'équipe, enfin c'est voilà, et à la fin elle doit même dénoncer sa mère, donc sa mère lui dit je te pardonnerai jamais, je vais plus jamais te parler.
Ah ouais, c'est terrible cette scène, c'est moi horrible, ça m'a comme arraché le cœur.
Et ce personnage voilà qu'on pourrait croire un peu infaillible, brut, épaisse, etc., en fait on se rend compte qu'elle a un cœur et que c'est dur pour elle quoi. Après j'ai quand même préféré ses cheveux roses qui m'ont manqué dans cette saison 2. Mais sinon ouais, j'ai trouvé ce personnage hyper intéressant.
Et même
de
je trouve que
ça, quoi.
Tu vois, je me suis... en fait ça, moi ça m'a fait des retours en arrière, tu vois, de quand j'étais au collège ou au lycée et que je voyais ce genre de meuf ou ce genre de mec, tu vois, et où je comprenais pas en fait ces comportements, j'avais pas
tu te rends compte qu'en fait elle a été obligée de grandir beaucoup plus vite que la normale, quoi.
C'est ça,
parce qu'elle
c'est ça.
Tout de suite été.
Et moi il y en a un autre du coup, moi mon personnage, donc mon évolution préférée de personnage dans cette saison, c'est Adam, parce que déjà je trouve l'acteur incroyable. Je trouve qu'il est...
Il est drôle.
Ah, mais...
Il y a des moments où il fait des têtes avec mon meilleur pote, on était morts de rire.
Ben ouais, et en fait je trouve qu'il est, comme je disais dans 1917, il a une tête qui transmet
en fait,
des
sans
émotions.
Bouger son visage, il arrive à te transmettre des émotions.
C'est ça, exactement. Et quand il a les mêmes mimiques que son père dans la série, du coup, ça les fait se ressembler énormément. C'est assez drôle d'ailleurs. On en parlait que les personnages ressemblent beaucoup à leurs parents dans la série. Mais voilà. Et en fait, j'aime bien sa storyline parce que donc elle est plus effacée tout le long de la saison, elle est un peu en background, mais sauf que ouais, je sais pas, c'est un mec que j'ai déjà croisé, tu vois. Je suis sûre que c'est un mec que j'ai déjà croisé, mais j'avais pas conscience que en fait t'as des gens comme ça qui n'ont plus peur de décevoir parce que en fait ils ont déjà trop déçu et qui malgré ce qu'ils font, ce sera toujours une source de déception pour ses parents, pour ses amis. Et en fait, j'ai trouvé déjà super touchante la scène où Ola lui dit qu'elle l'aime en tant qu'amie.
C'était trop mignon.
Et j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, ça m'a foutu des frissons et tout. J'étais là, mais tellement chou et tellement vrai en plus. Et elle fait non mais moi je t'aime en tant qu'amie, tu vois, et que personne lui ait jamais dit ça, tu vois, et que je sais pas, même
s'il
essaie.
C'est un peu sur le même système que Maeve où en fait c'est une brute épaisse et ouais. Quand tu creuses un peu tu te rends compte que pas du tout, il y a de la sensibilité là-dessous et c'est un peu un masque qui se pose pour se protéger quoi.
C'est ça exactement, et ce que j'ai trouvé pas mal aussi c'est que donc dans la première saison il est harceleur. Ensuite on voit qu'en fait il a des un faible pour Eric et dans la seconde saison Eric donc hésite entre Raïm et lui. Mm-hmm. Et il est plus attiré sensiblement par Adam. Mm-hmm. Et moi c'est un truc qui m'a fait peur au début et c'est ce qui a fait peur à Otis aussi en disant bah voilà, c'est ton harceleur, donc si
c'est
tu l'aimes.
C'est un syndrome de Stockholm.
Exactement, donc voilà. Donc je me suis dit à prendre avec des pincettes, et en fait je trouve que la saison l'a super bien fait parce que elle a aussi donné sa chance à Adam, tu vois. Parce que Eric donc finit avec Adam à la fin.
Ce qui est un peu triste quand même pour Raïm.
Ce qui est triste pour Raïm, mais en fait c'est aussi proche de la réalité, ouais. Tu vois, et c'est aussi Adam, on lui laisse une seconde chance. Enfin voilà, il va essayer de montrer que c'est pas qu'une brute épaisse, tu vois, et je trouve ça beau en fait de se dire bah voilà, il est pas catégorisé encore une fois, on l'a pas on l'a pas cancel quoi.
Carrément.
Voilà. Donc c'est ça que j'ai bien kiffé dans ce développement de personnage, même s'il est un peu en second plan et qu'il est un peu loin de l'intrigue principale. Vraiment.
Et pour autant, il a tout autant son importance en fait.
Ouais, c'est ça. Vraiment et tu sens qu'il fait des efforts et je sais pas, c'est. Ouais, c'est un côté. Alors que tu vois, dans 13 Reasons Why, ça m'avait davantage choqué qu'on redore un peu le blason de Justin. Bryce.
Ah non.
De Bryce, tu sais, qui était le violeur. Ouais.
Je pensais à Justin qui avait laissé Jessica se faire violer et qui, au final, est présenté comme le. Mais oui, je vois.
Enfin, voilà, moi, ça m'avait davantage choqué de la part de Bryce, qui est un peu le même genre de personnage, mm-hmm. tu vois, un peu dangereux, même si Adam n'a pas du tout violé. Enfin, n'a violé personne, mais. Et en fait, j'avais trouvé sa rédemption super facile, super. Même si ça reste important, en fait, de donner sa chance. Et là, je trouvais que la rédemption était faite petit à petit et que. Tu le voyais changer et tu te dis ouais, ok.
Et tu le voyais aussi prendre conscience de son comportement.
Ouais, c'est ça.
Et de bah oui, il faut que je change si je veux être avec le mec que je kiffe quoi.
Exactement. Et pour finir, ouais, j'avais juste un petit truc à dire. Il y a des petites aberrations dans cette saison,
oui,
faut le dire.
Tout aussi important.
Déjà, on est en Angleterre, il pleut jamais. Vous trouvez pas ça bizarre? Bon,
surtout qu'on est censé être, enfin je sais pas, ça commence en septembre je crois vu que c'est la rentrée des classes. Et après la série continue, on devrait être en novembre, ils sont en t-shirt.
Ah ouais, ils sont en t-shirt. Il pleut juste une fois quand ils vont camper dans les bois. Oh bah ma foi, franchement, j'étais là mais vraiment on est en Angleterre puis cette maison incroyable aussi qu'elle a la sexologue. Enfin je sais pas combien se font les sexologues en Angleterre, mais en tout cas un sacré paquet de fric je pense, parce que avoir une maison comme ça c'est quand même un life goal assez important. Mais voilà, mais ce ne sont pas les seules aberrations de la saison. Non en fait, enfin quand je parle d'aberration, bien sûr je prends des pincettes parce que comme on l'a dit pendant tout ce podcast, Sex Education c'est quand même d'utilité publique, c'est quand même un truc révolutionnaire. Mais il y a quand même, en fait, il y a quand même une erreur. Donc, à propos de la représentation du clitoris, j'en ai fait un article que je vous mettrai dans les liens de ce podcast, qui trahit en fait une méconnaissance mais généralisée du clitoris, mais en fait même dans une série qui se veut parler
de la sexualité,
avec, parce que je pense que vraiment c'était pas dans leur but de dire non, on va cacher le clitoris. Ouh là là, non, pas du tout. Je pense que c'est soit une méconnaissance, soit un oubli, je sais pas comment
erreur,
ça s'est matérialisé, mais en gros c'est Jean, donc la mère d'Otis, qui décide de donner des cours aux femmes, mais du coup adultes, qui lui demandent conseil sur la sexualité et qui présente donc une reproduction de vulve en disant bah voilà, on va regarder les zones érogènes du vagin, en appelant vagin une vulve. Bon, après ça c'est joué sur les mots parce que ça se trouve en anglais, c'est pas ça se traduit pas, j'en sais rien, mais elle dit vagina au lieu de vulva. Mais bon bref, encore ça c'est pas, mais en fait elle tire le gland du clitoris qui se détache de la reproduction, et elle dit voici le clitoris, c'est dans l'épisode 5 à 15 minutes du début. Et en fait, ça réduit le clitoris vraiment à son gland. Et j'ai trouvé ça... En fait, j'ai tiqué vraiment en voyant ça. J'étais là, quoi ? Mais attends, quoi ? Parce qu'en plus, donc Sex Education a sorti le petit manuel Sex Education.
Exactement, j'allais en parler justement. La pub dans les transports parisiens et même les photos qui ont été relayées sur le compte Insta de Netflix, de Mademoiselle aussi, je crois qu'on a relayé. C'est une photo de Emma Mackey qui représente Maeve Wiley. Avec qui montre une représentation 3D d'un clitoris, mais c'est une bonne représentation 3D.
Mais c'est ça. Et du coup, j'ai été super surprise. J'étais là, mais quoi ? Mais attendez, il s'arrête là sur le clitoris, c'est vraiment ça ? Et en fait, ils en reparlent pas du tout dans le reste de la saison parce qu'elle est interrompue en fait au milieu de la scène. Et je me suis dit, ok, bon, c'est bizarre. Et en fait, je pense que c'est juste une méconnaissance, enfin pour moi c'est juste de la méconnaissance.
Ouais, on peut se poser la question en fait, est-ce que c'est...
Ouais, qu'est-ce que ça veut dire ?
Pourquoi,
Ouais, c'est vraiment étrange et en fait, perso, j'en veux pas à la série parce que elle apporte déjà tellement de choses que voilà, ce serait vraiment pinaillé que de dire... voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre quand tu te dis, bon bah, cette série, elle va être... comme Jean, tu vois, une référente en matière d'éducation sexuelle.
Ouais.
C'est une référence et toujours le clitoris est mal représenté. Mais bon, après, peut-être que ça viendra dans une potentielle saison 3. Est-ce qu'on aura un épisode sur le clitoris en touche du bois, voilà. Mais voilà, après, c'est franchement le seul reproche que je peux faire à cette série qui est déjà, franchement, à un poil de cul d'être parfaite, comme j'aime à dire.
C'est si bien dit, Alix Martineau.
En vrai, je l'ai volé dans un commentaire de mon article. Il y a quelqu'un qui a dit, c'était à un poil de cul d'être parfait, et franchement, bravo, j'ai trouvé ça génial. Bon, voilà.
En conclusion, moi, je voulais juste dire que, voilà, encore une fois, la série parle on parle dans cette saison de MST, de pilule du lendemain, de consentement, d'asexualité, de pansexualité, de plein de thèmes qui touchent à la sexualité. Mais on parle aussi, comme on l'a dit, du rapport parent-enfant, avec l'arrivée du nouveau ou nouvelle conjointe d'un parent. On parle de d'échecs scolaires, on parle de la pression que peut recevoir un élève quand il est bon. Je parle de Jackson là, notamment.
Oui, bien sûr.
Où on parle de l'acceptation de son physique. Enfin, et en fait, tous ces sujets, c'est tellement important qu'on en parle quand on rentre dans l'adolescence, mais encore aujourd'hui aux jeunes adultes et aux adultes. Rien que pour ça, je tire mon chapeau à Sex Education.
Ouais, voilà. Moi, je pense que c'est vraiment une des meilleures teen séries que j'ai vues. Ouais. Vraiment.
Je suis d'accord. Moi, je l'ai mis dans mon article, d'ailleurs. Comme quoi.
Que vous irez lire tout de suite maintenant.
Les grands esprits se rencontrent.
Non, mais ouais, vraiment, c'est... voilà, si vous n'aviez jamais vu Sex Education, je vous la conseille à 200%.
Mais déjà, si vous êtes resté jusque-là sans avoir vu la série, bravo à vous.
Déjà, bravo de nous avoir écoutés.
Peut-être trouver un autre hobby. Je rigole.
Mais voilà, bah en tout cas, merci beaucoup Philippine d'être venue.
Merci de m'avoir
parler.
Accueillie pour la première fois. Je suis ravie, c'était trop bien.
Bah, c'était trop trop bien d'en parler avec toi. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'être restés jusqu'au bout. Je vous propose d'aller nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, parce que ça fait toujours plaisir.
Exactement.
Et puis, je reviendrai vers vous pour vous donner un petit peu le nouveau format de ce podcast qui va un tout petit poil changer. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à m'écrire à alix@mademoiselle.com ou à faire un commentaire sur Apple Podcast. Enfin, voilà. Je vous laisse libre choix. Et puis, à la prochaine.
À la prochaine.
Allez, ciao.
Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.